إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا زال الحديث متواصلا في جلستنا هذه التي بدأناها الأمس في بيان أحكام وفضائل متعلقة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقسمنا الجلسة إلى نقاط ذكرنا منها وبقي لنا بعضا منها، فالنقاط التي ذكرناها وتدارسناها ذكرنا والحمد لله تعالى الأحاديث الواردة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثاني الأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الرابع صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والمبحث الخامس معنى الصلاة والسلام والبركة على نبينا صلى الله عليه وسلم. وبقي لنا وتوقفنا في معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مبحث آخر إن تيسر لنا من هذا الوقت نذكر مواضع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم المجلس إن شاء الله تعالى بذكر الفوائد أو فوائد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمس ذكرنا وحتى طلبت من الحاضرين ما معنى الآل، وقبل هذا ذكرت أن هذه الجلسة منتقات وعبارة عن قراءة من كتاب توجيهات إسلامية لفضيلة الشيخ محمد ابن جميل زينو، وهو مدرس في دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. فهذه المباحث وجدتها يعني مختصرة ونافعة في هذا الكتاب النافع، فأحببت أن أفيدكم. ثم ذكرت أيضا أن أهل العلم اعتنوا بالتأليف في هذا الباب، وهو فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والعمدة ومراجع العلماء في هذا ما ألفه ابن قيم الجوزية بكتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فقد أفاد وذكر مباحث غالب العلماء في مؤلفاتهم يرجعون إلى هذا الكتاب القيم. فأنصح كل مسلم ومسلمة من أراد أن يتفقه في هذا الباب وهو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى هذا الكتاب القيم. ومعلوم وذكرنا في الأمس أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يلزم على كل مسلم وكل مسلمة من سمع اسمه أن يصلي ويسلم عليه، وهو قول جمهور العلماء. وذكرنا الأمس أقوال العلماء في حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها عبادة ولا يستغنى أن أن يتعبد بهذه العبادة إلا بإخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذا وهذا ولذا فهذا حري لكل مسلم ومسلمة أن يتفقه في هذا الباب، وهو كيف نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هي الفوائد من صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وباقي الأمور المتعلقة بذلك. فذكرنا أحاديث شتى في فوائد ومنافع وفضائل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون كل هذه الأحكام، لهذا قال جمهور العلماء على أنه يجب، جمهور العلماء يرون أنه واجب الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قرأنا تفسير ابن كثير لهذه الآية، وذكرنا أيضا تفسير الإمام القرطبي لهذه الآية ومعاني الصلاة والسلام، وقلنا أن جمهور العلماء يرون أنه واجب على كل من سمع، على كل من سمع محمد أو اسمه صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه أن لصيغ الصلاة والسلام اختصر العلماء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغتين، فمن سمع اسمه صلى الله عليه وسلم شرع لكل من سمعه أن يقول إما صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. فهذه صيغ مختصرة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهاتان صيغتان مختصرتان نقلت عن أهل العلم في بيان كيفية الصلاة والسلام. أما في الصلاة فذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، ومن بين السياق التي ذكرناها ويعني لسهولتها أن يقول المسلم بعد تشهده في صلاته، تشهده الأخير من صلاته: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه من بين السياق، وقلنا أن سياق الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم سياق أخرى ثابتة من السنة الصحيحة. وقلنا أن الراجح من أقوال أهل العلم ماذا يشرع ماذا يشرع أن يقال في الصلاة، هل أن يتواتر أو يحافظ على صيغة واحدة؟ لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن ما دام أن الصيغة واردة وثابتة فينبغي تارة أن يقول هكذا وتارة يقول صيغة أخرى حتى يصيب السنة، وهو القول الراجح. المهم ذكرنا نقاط الحمد لله، وبقيت لنا ثلاث نقاط، ألا وهي معنى آل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذكرنا معنى الصلاة، وقلنا أن من تفسير يعني من الآية في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذكر الإمام ابن كثير والإمام القرطبي أن الصلاة على ثلاث مراتب: الصلاة من الله على النبي، الصلاة من الملائكة على النبي، والصلاة من الأمة على النبي. وذكرنا يعني معاني كل واحد منها. المهم نرجع إلى قوله أو معنى الآل. لا شك كل منا في صلاته والحمد لله يكرر بعد التشهد اللهم صل على محمد. فهمنا ما معنى الصلاة على محمد على مراتبها. بقي لنا قولنا وعلى آل محمد. فسألت الأمس ما معنى الآل في قولنا وعلى آل محمد. قبل هذا أحاول أن أترجم ما قلت باختصار حتى يعني نتقدم في الدرس. Donc je disais hier, on a traité le sujet où l'assise elle était le titre les jugements et les mérites de la prière et la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a essayé de diviser la séance en plusieurs points. On a parlé sur, on a cité les hadiths qui citent et les mérites de la salutation et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième point, on a parlé sur l'ordre de prier et saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou faire les salutations et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième point, on a parlé sur le jugement de la prière et la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième point, les différentes façons de faire la salutation et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième point qu'on avait traité, c'était hier, on a parlé sur le sens de la prière et la salutation et la bénédiction. Ensuite, il nous restait trois points, on va essayer de les traiter dans cet aziz, inshallah ta'ala. On va essayer rapidement de terminer ces points pour finir le sujet. Le point qu'on va aborder aujourd'hui, inshallah, c'est donner le sens du terme Alu Muhammad. Je viens de dire que chaque musulman, dans sa prière, après le dernier tashahhud, il est légiféré de prononcer As-salawat, ce qu'on appelle As-salawat d'Ibrahimiyya. En réalité, chaque musulman, celui qui la connaît par cœur, il dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Seigneur, salut Muhammad. Si je traduis en français, Alu Muhammad, je vais le traduire par la famille de Muhammad. La traduction, elle est comme ça. Mais on va détailler exactement que signifie Alu Muhammad, même si en français, c'est limité à la famille de Muhammad. On verra, inshallah, quel est le sens exact et qu'est-ce qui. On va peut-être lire ce qu'ils ont dit les savants sur le terme Alu Muhammad. Hier, je disais, j'ai posé la question. C'était le dernier point qu'on avait abordé hier. Que signifie Alu Muhammad? Même si hier, on avait une trentaine de réponses, mais il n'y a aucune réponse qui était correcte. Non, merci. D'ailleurs. Non. Mawar Qawlur Rajih. Il a dit. Il vient de dire que les savants, ils ont donné plusieurs sens du terme Al Muhammad, c'est-à-dire la famille du Muhammad. Est-ce que c'est lui sa famille? Est-ce que c'est lui ses femmes? Est-ce que lui et les compagnons? Est-ce que tous ceux qui ont suivi le prophète, ils font partie de la famille du Muhammad? Quel est l'avis le plus fort? C'était la question. Qui sont Ahl al-Bayt? Parce que c'est vrai, on dit Ahl, on signifie l'Ahl. Mais qui sont Ahl exactement? Faisal. Allah. Tu as donné une réponse qui englobe tout. Mais les savants, selon les hadiths, ils ont précisé exactement. Ça, c'est le sens large du terme Al Muhammad. Mais en réalité, quel est le sens exact ou le plus proche ou le plus précis selon les textes? Le sens du Al Muhammad. C'est pour ça que j'ai dit, ça m'a étonné de ne pas savoir le sens du Al Muhammad. C'est-à-dire, on répète combien d'années? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mais on ne sait pas le sens du Al Muhammad. Il n'y a pas de mal si on ne sait pas. Mais on n'a pas d'excuse pour apprendre. On doit le savoir. Parce que si on prononce des choses qu'on ne connaît pas, ça c'est un problème. Donc on va essayer. Na'am Faisal. Ahlul Bayti Fakat. Qui sont Ahlul Bayt? Ah, parce que j'ai donné la réponse. Ah, le hadith veut profiter. Hein? Aïe. Na'am. Ça, c'est ma réponse. D'accord. Taïb. On va parler sur ça. Aïwa. Man alu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes, Ali, les compagnons. Aïe. Il y a une chose que je n'ai pas entendue. C'est la plus importante. Hein? Redis. Ouais. Mashallah, barakallah. C'est la bonne réponse. Même si j'ai donné des signes. Je vais lire un passage du livre Tawjihad Islami à l'Cheikh Mohamed ibn Jamil Zainou. Même si lui, il n'a pas vraiment trop détaillé, et celui qui veut vraiment avoir un détail, on ne peut pas avoir un détail plus que ça. Même les savants, ils ont fait des ouvrages. Ils ont parlé sur Al-Muhammad. Et parmi les savants, sur lequel c'est le deuxième ouvrage sur lequel je me base, et je vais lire l'explication du Al-Muhammad, je vais donner le titre et l'auteur. On revient à Jala' al-Afham. C'est la référence. Tous les savants, ils font tous les ouvrages. Chaque siècle, ils font un ouvrage. Toujours, et tu dis qu'est-ce qu'il a dit Ibn Qayyim al-Jawziyyah dans Jala' al-Afham. Toujours. Les anciens, les derniers savants, souvent dans ces temps, ils font des ouvrages dans Fadl al-Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne peuvent pas aller plus loin ce qu'il a fait Ibn Qayyim rahimahullah. C'est pour ça que je dis même, juste à l'introduction, pour commencer, il a cité 135 hadiths concernant le sujet. Ensuite, il a commencé à aborder hadith par hadith, la chaîne de transmission, le contenu du texte, les leçons qu'on peut tirer du hadith, etc., etc. Et après, il a parlé sur la salutation. Il a parlé sur Nabi Ibrahim, il a parlé sur Muhammad, sur Al-Muhammad, les femmes du Prophète sallam, tout. Et à la fin, il a essayé de terminer le livre par citer 40 leçons ou raisons de saluer et faire la prière sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ouvrage c'est un ouvrage d'or. Et j'ai dit, l'auteur c'est Ibn Qayyim al-Jawziyyah. À la base, si on veut vraiment si on veut revenir à le sens le plus large et en détail du Al Muhammad, on peut lire, il suffit de lire Jalal Afham. Mais vu les noms, les savants ils ont fait des autres ouvrages, ils ont simplifié. Parce que pour terminer ce livre, c'est vrai, il faut du temps. Les savants ils ont fait des ouvrages simples et c'est un résumé ce qui est dans Jalal Afham. Donc je vais lire ce qu'il a dit Cheikh Jamil Zainou sur ce point. Et ensuite je me base sur un autre ouvrage. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم جدا باساج إلى جي اختلف العلماء في من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال les savants se sont divergés sur le sens de آل محمد. La traduction en français, on trouve la famille, point, mais il y a plus que ça. Donc les savants sont divergés sur, ils ont quatre avis ou quatre différentes paroles sur le sens de Al-Muhammad. Le premier, أنهم الذين حرمت الصدقة حرمت الصدقة عليهم وهم بنو هاشم وبنو المطلب. Donc ça c'est le premier sens. Ce sont la famille du Prophète sallam où la sadaqa, elle était interdite pour eux. L'aumône, elle était interdite pour eux. Ils n'avaient pas le droit de prendre un zakat. Et Yushi, ils sont les descendants de Hashim et Al-Muttalib. Donc ça, c'est le premier sens. Deuxième, il y en a qui ont dit أَنَّهُ ذُرِّيَتُهُ وَأَزْوَاجُهُ خَاصَّةُ. Deuxième avis, c'est ce sont ses enfants et ses femmes, ses épouses. Troisième avis, إنهم أتبعه في يوم القيامة. Ce sont, le troisième avis, ce sont qu'ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement. Le quatrième, إنهم الأتقياء من أمتي. Ce sont les pieux de sa communauté. Ce sont les pieux de sa communauté. Donc les savants, c'est ça les quatre avis sur lesquels ils sont divergés. Et Cheikh Jamil Zinou et autres savants, ils disent l'avis le plus juste, c'est le premier avis. Ce sont الَّذِينَ حُرِّمَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ بَنُ هَاشِمْ وَبَنُ الْمُطَّلِبِ. Ce sont la famille ou les proches du Prophète sallam où l'aumône était interdite pour eux. Ça, c'est le premier critère. Et aussi, et le deuxième, ce sont les descendants de Hashim et Al-Muttalib. Donc ça, le cheikh, il a donné les quatre avis. Ensuite, il a dit, l'avis le plus fort, c'est le premier. Ce que l'aumône était interdit pour eux, et aussi qui sont les descendants de Hashim et Al-Muttalib. Il a renforcé cet avis par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité trois hadiths, mais j'ai préféré de se baser sur un autre ouvrage, ou si c'est un ouvrage d'or. Si je vous pose la question, qui est le muhaddith de ce siècle qui est au Médine? Un cheikh Albani est décédé, rahimahullah. Et en plus, il n'est pas de Médine. الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر connu par son nom عبد المحسن العباد. Il a fait un ouvrage, il a appelé فضل أهل البيت وعلو مكانتهم, le mérite du أهل البيت et le lever de leur le plus haut, leur haut, ou wa makanatihim, leur haut rond, voilà. Donc ça, c'est le titre de l'ouvrage de Cheikh Abd al Mohsin al Abbad. Et dedans, c'est Masha'Allah, Barakallah. Il a cité aussi presque les mêmes points. Le mérite, les récompenses, les leçons, les façons de le faire, quel est le sens de salat, quel est le sens de teslim, etc. C'est un ouvrage très très simple. Celui qui veut commencer par avoir une connaissance générale sur le mérite concernant sur ce point. C'est-à-dire la prière et les salutations. Le premier point par lequel il a commencé à définir qui sont Ahlul Bayt. Qui sont Ahlul Bayt. Il a dit القول الصحيح في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة. L'avis authentique ou le plus fort du sens du Ahlul Bayt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont qui ou l'aumône est interdite pour eux. Hum, man tahramu alayhim al-sadaqa. Wa hum, qui sont sa famille ou les membres de sa famille ou l'aumône est interdite pour eux. Wa hum, azwajuhu, ses épouses. Wa dhurriyatuhu, ses enfants. Wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli 'Abd al-Muttalib wa hum banu Hashim ibn 'Abd al-Manaf. Qala Ibn Hazm fi jamharati ansab al-Arab. Il a donné la page jusqu'à la fin du contenu. Donc Cheikh, il a précisé ce sont ses épouses, ses enfants, et chaque musulman, une musulmane, descendant de Abdul Muttalib, et qui sont les descendants de Hashim ibn Abd Manaf. Donc, en réalité, ses épouses, ses enfants et tous les descendants de Banu Hashim ibn Abd Manaf, eux, ils font partie de Ahlul Bayt. Donc, zakat pour eux, elle est interdite. Donc, c'est eux qui font partie de Ahlul Bayt. Qui signifie aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2010, on peut avoir des gens qui font partie de Ahlul Bayt? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Si on n'a pas leur, certainement, on a dit soit les épouses, soit les enfants, soit tout musulman et musulmane descendant de Banu Hashim ibn Abd al-Manaf, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui signifie que même maintenant, on peut avoir des gens qui sont les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, eux, ils font partie de Ahlul Bayt. Donc, ça, c'est à savoir. Ensuite, le cheikh l'a essayé de justifier. Pourquoi ces trois catégories, les épouses et les enfants et tous les descendants de Banu Hashim. ويدل لدخول بني أعمامه من أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. Ce qui signifie que les descendants de Banu Hashim, c'est-à-dire les descendants des oncles paternels du prophète sallam, qui font partie de Ahlul Bayt, ce qu'il a rapporté muslim dans son sahih, selon Abd al-Muttalib ibn Rabi'ata ibn al-Harithi ibn Abd al-Muttalib, annahu zahaba, qu'il est parti, lui et Al-Fadl ibn Abbas. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الحارث ابن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, les descendants qui s'appellent Abdullah ibn Rabia ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Il est parti lui et le Fadl ibn Abbas. Lui et le Fadl ibn Abbas. Il faut savoir que al-Harith et al-Muttalib sont les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, qui est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il y a des autres frères. Il y a Al-Harith, il y a Hamza et autres. Et Al-Abbas. Donc Al-Harith et Al-Abbas sont les oncles paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, Al-Abbas, il a deux fils. Abdullah, ce qu'on appelle Abdullah ibn Abbas, et le deuxième, Al-Fadl. Donc c'est pour ça, Ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous remarquez, Abdullah ibn Rabi'a ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Il est parti avec le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Fadl ibn Abbas. Ils sont partis les deux au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandaient, يَطْلُبَانِ مِنْهُ أَنْ يُوَلِّيَهُمَا عَلَى الصَّدَقَةِ لِيُصِيبَانِنَ الْمَالِ مَا يَتَزَوَّجَانِ بِهِ. Donc eux deux, qui sont les descendants du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est pour ça qu'on a dit qu'ils font partie du Al-Bayt, c'est pour ça qu'ils ont justifié pourquoi on a fait rentrer les descendants de Banu Hashim. Parce que eux deux, ils font partie des descendants. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour حتى يتوليان يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة. Ils ont parti voir demander le prophète sallam pour être le responsable de la sadaqa. Les responsables qui font partie des responsables de l'aumône de sadaqa. Pourquoi? لِيُصِيبَ مِنَ الْمَالِ مَا يَتَزَوَّجَانِ بِهِ. Pourquoi? Pour qu'ils se rendent, on sait bien que ceux qui méritent la zakat ou le moun, on a 8 catégories. Parmi les catégories, on a الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, ceux qui بَارَكَلَّهُ بِكَ, ceux qui se chargent de la sadaqa. Donc eux deux, ils font partie de voir le prophète pour demander qu'ils se chargent de la sadaqa. Comme ça, ils auront par la suite une part, parce qu'ils font partie de ceux qui se chargent de ramasser et distribuer la zakat, de sa sadaqa. Qu'est-ce qu'il a répondu, en fait? Ils voulaient faire ça, les deux, pour avoir une part pour qu'ils se marient, pour avoir une aide pour se marier. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallam? إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. Il a dit, le monde, ou si on peut traduire, la famille de Mohammed ne mérite pas une part de sadaqa. Est-ce que c'est clair? Donc signifie que آل محمد, ils ont cette qualité que ils ne méritent pas, ou c'est interdit pour eux, la sadaqa. Ensuite, il a dit, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَخُ النَّاسِ. La sadaqa, pour eux, pour Al-Muhammad, c'est une saleté des gens. C'est-à-dire, l'argent qu'il donne, c'est une saleté pour la famille du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ أَمَرَ بِتَزْوِيجِهِمَا. Ensuite, il a ordonné qu'ils se marient. وَإِزْدَاقِهِمَا مِنَ الْخُمُسِ. Il les a donné de sa part pour les aider, c'est-à-dire lui-même, il les a donné une part de l'argent pour qu'ils se marient. Donc vous remarquez, c'est pour cela, Ahlul Bayt, ils ont cette qualité que c'est interdit pour eux, zakat, et ça c'est tiré de ce hadith qui est rapporté par un muslim. وَقَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِي وَأَحْمَدْ. Donc même Imam Shafi'i et Ahmed, ils ont fait partie du Al-Bayt, Bani Al-Muttalib, Ibn Abdi Manaf, Bani Hashim, fi tahrim al-sadaqah. Donc le premier hadith qu'on vient de lire, ça implique que c'est la famille de Banu Hashim. Imam Shafi'i et Imam Ahmed, ils ont fait entrer Banu Abdul Muttalib, parce que dans le hadith, il y a des descendants de Abdul Muttalib. Donc c'est pour ça, selon ce hadith aussi, ils ont fait partie que, ils ont dit que aussi les descendants de Banu Muttalib, ils font partie de Ahl al-Bayt. Fi tahrim sadaqati alayhim, li musharakatihim iyyahum fi i'ta'ihim min khumus al-khums, wa dhalika lil hadith alladhi rawahu al-Bukhari fi sahih. Dans un autre hadith qui est rapporté par Sahih al-Bukhari, an Jubayr ibn Mut'am, الذي فيه أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل لكون بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. Donc ça, le résumé de ça, c'est qu'on vient de dire que Ahl al-Bayt, ce sont la famille du prophète صلى الله عليه وسلم qui ne mérite pas, où l'aumône est interdite pour eux, et qui sont les descendants d'eux, Banu Hashim et Banu Al-Muttalib. Donc ça, c'est l'avis le plus fort et l'avis le plus juste selon les textes, comme on vient de dire. Ensuite, il a cité, il a donné un argument pourquoi on a fait entrer aussi la famille ou les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est tiré du verset فَأَمَّا دُخُولُ أَزْوَاجِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي آلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. Ensuite, il s'est basé sur ce verset pour montrer que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam font partie de Ahlul Bayt. Donc on a écouté le hadith Sahih al-Bukhari, le hadith de Sahih Muslim qui est le premier, et le hadith de Sahih al-Bukhari, et le verset, les trois, ce sont les arguments qui regroupent la définition de Al-Bayt. Donc à partir d'aujourd'hui, on doit savoir qui sont Al-Bayt et non pas les limiter par les pieux de la communauté ou tous ceux qui ont suivi le Prophète sallam ou autre chose. Ça peut être un sens général, et c'est vrai parce que certainement les femmes du Prophète sallam et ses enfants et les descendants de Banu Hashim et Al-Muttalib, ils font partie des pieux de la communauté, ils font partie de ceux qui ont suivi le Prophète sallam. Donc tu remarques que ça c'est un sens général, mais le sens le plus proche et le plus authentique, c'est ce qu'on vient de citer. Donc ça concerne le sens de Alu Muhammad, ay al an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, ou le deuxième sujet qu'on va traiter, mawadi'u as-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les endroits où on peut faire la salutation et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui peut nous citer quelques-unes? Quand est-ce qu'on fait as-salatu as-salam 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Dukhul al-masjid. Vous avez oublié, qu'est-ce qu'on dit quand on rentre à la mosquée? Hein? Allahumma salli ala Muhammad. Al-khuruj min al-masjid. Après l'adhan. Hein? Ba'da salat, c'est-à-dire. Hada? هذا في الأنا ذكرناه في الصلاة يعني بعد التشهد الأخير قبل التسليم يوم الجمعة بعد الوضوء كيف تقول بعد الوضوء هذه الشهادة سي با لا بريير الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كوا دوت لا اون يولا. Non, les assises. C'est pour ça toujours, on remarque celui qui donne la leçon, toujours il commence Bismillah wa salat ala nabi. Toujours il doit commencer par Salat wa salam ala nabi salam. Quoi d'autre? Hier j'ai cité Salat al-janaza. Quand on fait le dua. Aïe, quoi d'autre? Hein? Ça c'est certainement. Aïe, quoi d'autre? On a cité presque la majorité des endroits. On va les lire rapidement, inshallah. Mawadi'u as-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, fi as-salati fi akhir at-tashahhud. Faqad rawa Muslim 'an Abi Mas'ud qala aqbala rajulun حتى جلس بين يدي للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم.
Donc ça, c'est le premier endroit qu'il a cité le Cheikh dans la prière, dans le dernier tashahhud.
2. في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية.
Donc dans la prière de la janaza,
après la deuxième takbira. فقد روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهر أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه.
Donc on vient d'écouter le hadith qui montre comment faire la prière de janaza et certainement la salat de janaza d'habitude qu'on fait, on la fait en 4 takbirat, on est debout. Il y a une façon de le faire, on aura l'occasion de parler dans les dourous de jurisprudence, mais en général, on est debout, on dit Allahu Akbar, et on lit Fatiha, ensuite Allahu Akbar, et qu'est-ce qu'on recite après le deuxième Allahu Akbar, ou la deuxième takbira, on cite As-salat ala nabi. Et je vous ai dit, et même, je l'ai écouté de la part de Cheikh Abdel Mohsin Abad, il a dit, c'est pour cela, et même il y a des autres hadiths qui confirment ça, parmi les causes que les prières, que les invocations sont exaucées, c'est de faire la salutation et la prière sur le prophète sallam. Pourquoi? Parce que salat al-janaza, c'est un dua pour le mort, c'est une invocation pour le mort. Et c'est pour ça, avant, parce que dua, toujours on le fait après la troisième takbira et la quatrième. C'est pour ça que dua, qui est dans la prière de janaza, il était précédé par deux choses. Al-Fatiha et As-Salat al-Nabi. Et certainement ça permet, et ça fait partie des causes pour que les prières soient exaucées. On a un autre hadith, on va l'écouter.
Troisièmement, ba'da ijabati al-Mu'adhdin,
après la répétition derrière al-Mu'adhdin. On avait traité ça dans les cours de jurisprudence.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله للوسيلة حلت له شفاعتي رواه مسلم.
Regardez le mérite de faire les salutations après l'adhan, et le mérite c'est qu'on aura une part de l'intercession le jour de résurrection.
Quatrièmement,
parmi les endroits,
عند الدعاء,
dans les invocations,
لقول النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith رواه ابن مخلد في المنتقى وهو حسن بشواهده. Le hadith dit, كل دعاء محجوب, حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. Toute prière est
comment on a traduit hier? toute prière ou invocation est voilée tant que on n'a pas fait ou la prière sur le prophète ou la prière tant que la prière sur le prophète n'était pas faite. Donc vous remarquez, ça montre que parmi les causes pour que les prières soient exaucées, c'est de précéder l'invocation par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le hadith. Cinquièmement, خامساً عند دخول المسجد والخروج منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم صحيح حديث رواه في صحيح رواه النسائي. Donc vous remarquez l'invocation quand on rentre à la mosquée, en sortant, même dans la, en rentrant et en sortant de la mosquée, on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixième endroit, عند اجتماع القوم, dans les assemblées. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الله أكبر.
Regardez, et ça fait partie de la politesse des assemblées. Parmi les politesses, regardez le mérite et, si on me permet de le dire, le châtiment de celui dans une assemblée qui n'invoque pas Allah et ne fait pas la prière sur le prophète dans une assise. Souvent, on est souvent... Souvent, on est dans des assemblées, on parle, on ouvre des sujets, Allah musta'an, mais est-ce qu'on invoque Allah, ou on fait des rappels, ou on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des assises, Allah musta'an. Donc on doit faire attention dans les assemblées générales qu'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne rate pas le mérite. Et on a écouté le hadith. Ma jalasa qawmun majlisan lam yathkuru allaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alayhim tira. Et une vengeance de la part de notre Seigneur. Fa in sha'a azabahum, si le veut, il est châtié. Wa in sha'a ghafarahum, et s'il le veut, il leur pardonne. Et comment on peut savoir quand on était pardonné? On n'oublie pas de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et invoquer Allah dans les assemblées. Septièmement, sabi'an, parmi les endroits ou les moments, yawmul jumu'ah. يوم الجمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة إن أفضل أيامكم يوم الجمعة. Certes, parmi les meilleurs de vos jours, c'est le jour du vendredi. فيه خلق آدم, ce jour Adam est créé. وفيه قبض, et ce jour son âme, comment traduire, insufflé. Wa fihi an-nafkha, et ce jour il y a an-nafkha, le souffle. Wa fihi as-sa'qa, الصعقة. النفقات هنا 3. Non. Il y a un deuxième souffle, mais voilà, qui fait peur, ou les gens, ou je ne sais pas comment on pourra traduire. الصعق.
فأكثروا علي من الصلاة فيه.
Regarde, il dit. Comment traduire? أكثروا علي الصلاة فيه. faites beaucoup les prières sur moi. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.
Vos prières, ils sont exposés
sur moi. فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَحِحٌ رَوَى أَحْمَدُ.
Donc vous remarquez, il a cité, il a dit parmi les meilleurs de nos jours, c'est le jour du vendredi. Et voilà, As-Sa'qa est ce jour, wa fi As-Sa'qa, c'est le foudrement. Voilà.
Barakallahu fik.
Donc on remarque, il est cité parmi nos meilleurs jours, qui est le vendredi, et dedans, il a demandé,
فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاتِ فِي.
Et c'est une réalité, et c'est pour cela, les savants, ils ont considéré parmi les sunan al-mayita. C'est devenu maintenant parmi les sunan mortes, qu'on ne connaît pas, que الصَّلَاتَ عَلَى النَّبِيِّ أَمْرٌ يَعْنِي مَشْرُوعَ خَاصَةً وَبِالْأَخَصِ هو القصد في كل الأيام في كل وقت لكن يندب ويكون أفضل يوم الجمعة. Donc le jour du vendredi, on n'oublie pas de répéter plusieurs fois la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Neuvièmement, pour terminer, في أول النهار وآخره,
au début de la journée et la fin de la journée.
Et là, on a cité le hadith hier. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة.
Est-ce que c'est dur? Celui qui prie sur moi 10 fois au début de la journée et 10 fois à la fin de la journée, c'est-à-dire le soir,
adrakatu 10 fois, adrakatu shafa'ati yawm al-qiyamah.
Il aura une part de ma résurrection, de mon intercession le jour du jugement. Est-ce que c'est dur de prier sur le prophète 10 fois? Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Est-ce que c'est dur? Ou sallallahu alayhi wa sallam. Ou même si de répéter Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jusqu'à la fin. Est-ce que 10 fois, ça prend combien de temps? 2 minutes. Et on regarde le mérite. 10 fois, on peut faire peu de choses et moins de choses, et le mérite, et les grands, alhamdulillah.
On a d'un fardou min Allah.
Et on termine.
فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
On va lire, inshallah, 40 leçons ou 40 bonnes raisons de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Et ça, Alhamdulillah, je l'ai trouvé même traduit en français. Celui qui veut faire une photocopie ou l'avoir sur 3 pages, on a 40 bonnes raisons de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais les lire rapidement. Ensuite, je reviens de les lire en arabe, inshallah ta'ala. Et ça, ils le disent, de toute façon, s'ils le traduisent, certainement, ils l'ont traduit, ils l'ont tiré de livre Jala al-Afham, fi salati wa salam ala khair al-anam, d'Ibn Qayyim al-Juzi. On remarque tous les ouvrages, etc., toutes les traductions, certainement, elle revient à la base et la source qui est dans le livre. Et c'est vrai, je les ai trouvés 40. C'était de 1 à 40. Donc parmi les bonnes raisons, même si on cite une vingtaine, la première, lorsque l'individu prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se soumet avant tout au commandement du Seigneur. 2. Il s'inspire de son Seigneur, bien que sa prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit différente de la nôtre. La sienne consiste à lui faire les honneurs et les éloges. Et la nôtre consiste à prier et à invoquer en sa faveur. 3. Parmi les bonnes raisons,
il suit les traces des anges. 4, il obtient 10 prières de la part d'Allah pour chaque prière qu'il prononce. 5, Allah l'élève de 10 degrés à chaque fois. 6, il lui sera inscrit 10 récompenses. 7, septièmement, il lui sera effacé 10 péchés. 8, s'il accompagne sa prière à ses invocations, elles seront plus favorablement reçues par le Seigneur, étant donné que cette fameuse prière permet de les faire monter au ciel. Sans cela, ces invocations risquent de rester suspendues entre le ciel et la terre. 9, c'est aussi un moyen d'obtenir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10, c'est un moyen de se faire pardonner les péchés. 11, c'est un moyen par lequel Allah soulage la détresse de son serviteur. 12, c'est un moyen de se rapprocher de son Seigneur le jour de la résurrection. 13, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam se substitue à l'aumône envers les personnes en difficulté. 14, il lui permet de mener ses affaires à bien. 15, elle lui permet de recevoir les prières d'Allah et celles des anges. 16, elle lui permet de se purifier et de se mettre en valeur. 17, elle lui permet de se voir annoncer le paradis avant sa mort. 18, il lui permet d'épargner les douloureux événements de la résurrection. 19, elle lui permet de recevoir en réponse les prières et les salutations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 20, elle lui permet de se rappeler les choses qu'il a oubliées. 21, elle lui permet d'embellir ou de purifier ses assemblées et de faire que celle ne soit pas un sujet de regret le jour de la résurrection. 22, elle permet de repousser la pauvreté. 23, il épargne ainsi que de prendre le nom d'avare que mérite toute personne se privant de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où ce dernier est évoqué. 24, il ne sera pas concerné ainsi par l'invocation destinée contre tout ceux qui s'abstiennent de prier sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, à l'écoute de son nom. 25, elle lui permet de se maintenir sur le chemin du paradis, contrairement à celui qui ne prie pas sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est parmi les 40, même s'ils sont numérotés de 1 à 40, donc celui qui voudra, inshallah, on lui passera pour faire une copie. Et vous le trouvez même sur Internet, sur le site Islam House. C'est un bon site où souvent je trouve des traductions en français. Alhamdulillah. Donc dedans, vous remarquez toutes ces bonnes raisons, juste le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on veut de plus de ça? Juste en prononçant son nom, on a des mérites. En prononçant son nom, on a un mérite. Et qu'est-ce qu'on dit si on suit ses ordres? Donc les récompenses, celui qui veut revenir, qu'il revient aux mérites qui sont cités dans le livre. Et je vais les lire même rapidement, inchallah, et on va terminer. Donc je répète, ces mérites, ils sont dans le livre Jalal al-Afham de Ibn Qayyim al-Jawziyya. باب الباب الخامس الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. الثانية موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان. Je te rappelle que signifie الصلاة. d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salatullahi ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Na'am. Thana'uhu fi wa dhikruhu fi al-mala'i al-a'la.
Tayyib. Le deuxième. La prière des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي كسني في صلاة الملك على النبي
الاستغفار demande pardon pour le prophète صلى الله عليه وسلم la prière de la communauté sur le prophète صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم
on a dit ce signifie que demander à Allah qu'il prie sur lui est-ce que c'est clair
طلب أو دعاء الله أن يصلي عليه فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف الثالثة موافقة ملائكته فيها الرابعة حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة
regardez le mérite si on prie une fois sur le prophète Allah Ta'ala priera, c'est ça, 10 fois sur le serviteur. Et qu'est-ce qu'on a dit sur la prière d'Allah sur le serviteur? Ensuite, l'invoquer et l'éloger auprès de ses anges.
الخامسة أن يرفع له 10 درجات. السادسة أن يكتب له 10 حسنات. السابعة أن يمحى له 10 سيئات الثامنة أن يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصعد الدعاء إلى عند رب العالمين عز وجل التاسعة أنه سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بالسؤال الوسيلة له أو أفردها العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه الثانية عشرة أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة الرابعة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائج الخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه السادسة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له السابعة عشرة أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته الثامنة عشرة أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة التاسعة عشرة أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه العشرون أنها سبب لتذكر العبد بما ما نسيه الحادية والعشرون أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة الثانية والعشرون أنها سبب لنفي الفقر الثالثة والعشرون أنها تنفع عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم الرابعة والعشرون نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها السادسة والعشرون أنها تنجي من نمن المجلس الذي لا يذكر فيه الله تعالى ورسوله وبحمد الله ويثني عليه فيه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. السابعة والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله. الثامنة والعشرون أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط وفيه حديث ذكره أبو موسى. التاسعة والعشرون أنه يخرج بها العبد من الجفاء. الثلاثون أنها سبب لإبقاء لله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك.
Donc là, on vient de citer 30 parmi les 40 bonnes raisons le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'arrête là pour ne pas, parce que je crains de, si on continue, on passera l'heure de la prière. Donc c'est ça le résumé de notre assise concernant la prière et la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc n'oubliez pas toutes ces bonnes raisons, juste en répétant la salutation et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aktafi bihad al-qadr. Donc celui qui veut revenir, je vous invite toujours de revenir à ce livre Jala'u al-afham bi salati wa salam ala khayr al-anam d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Hier j'ai donné on a parlé sur le nom de l'auteur. On a dit qui est l'auteur de livre Jala'u al-afham, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Hier j'ai dit, souvent quand on va chercher un livre, souvent les gens se trompent en prononçant son nom. Il y en a, il appelle Ibn Qayyim al-Jawziyya. Il y en a qui disent Ibn al-Qayyim. Il y en a qui l'appellent Ibn al-Jawzi. Et il y en a qui l'appellent Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et on a dit parmi ces quatre noms, laquelle qui est fausse? Je répète. Il y en a qui disent Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il y en a qui disent Ibn al-Qayyim. Il y en a qui disent Ibn al-Jawzi. Il y en a qui disent Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Lequel est faux parmi les quatre? Samir? Non. Laquelle est? Ibn al-Jawzi, il existe. Ce nom, il existe, c'est un savant. Je sais bien, mais j'ai cité ces quatre noms, mais lequel il faut de dire parmi ces quatre, il y a un qui est faux, il n'existe pas. Il n'existe pas, c'est pour ça on le dit. Il y en a qui disent je veux lire le livre tel, mais il n'existe pas ce savant. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. En réalité, le dernier n'existe pas. C'est une erreur de prononcer Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il n'existe pas, ce savant. Donc on doit faire attention. Mais ce qui existe, donc on a les trois. Mais parmi ces trois, est-ce que c'est des trois savants? C'est que deux savants. Pourquoi? Parce que un, il s'appelle soit Ibn al-Qayyim ou Ibn Qayyim al-Jawziyya. Bitta, c'est terminé par Atta. Ibn Qayyim al-Jawziyyati. Eux, ces deux, c'est le même savant. Il a deux noms différents. L'autre, Ibn al-Jawzi, c'est un autre savant. Et on a dit, Ibn al-Jawzi, il a vécu avant Ibn al-Qayyim. L'autre, il est décédé dans les 592. Et Ibn al-Qayyim est décédé dans les 751.
Jamais il y a un qui n'a pas vécu à l'autre. Donc c'est deux savants différents. Donc, doit, et chacun a des ouvrages de ce type. Donc c'est pour ça que les gens se trompent en prononçant l'auteur. Donc on doit faire attention de connaître le nom exact. Et j'ai dit hier, juste pour le rappeler, et puis on a le temps, Ibn al-Qayyim et Ibn Qayyim al-Jouziyati. Qui peut me dire pourquoi il a ces deux noms? On a dit hier. Voilà, parce que al-Jouziyya ou Qayyim, le mot Qayyim signifie directeur, moudir, directeur. Et al-Jouziyya, c'est une école. Donc de dire Ibn al-Qayyim, c'est comme je dis Ibn al-Moudir, le fils du directeur. Ibn al-Qayyim, parce que pour son père, il était directeur de l'école qui s'appelle al-Jouziyya. Donc c'est pour ça le fils du directeur. Ou de dire Ibn Qayyim al-Jouziyati, le fils du directeur de l'école al-Jouziyya. Donc c'est pour ça qu'il a ces deux noms qui ressemblent, mais ils ont un sens correct. Donc on doit faire attention de prononcer Ibn al-Qayyim ou de dire Ibn Qayyim al-Jouziyati. Lui c'est un savant, et c'est lui qui est l'élève de Cheikh al-Islam al-Taymiyyah. Par contre, l'autre, Ibn al-Jawzi, non. Parce qu'il a vécu avant et loin de Cheikh al-Islam al-Taymiyyah, parce qu'il est décédé en 592, rahimahullah ta'ala. Donc ça c'est juste une information, une faïda concernant le titre et l'auteur du l'ouvrage. Donc naktabi bihada al-qadar. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.